Un jour, alors qu'Isaac Newton se reposait dans son jardin à l'ombre d'un pommier, une pomme se détacha de l'arbre et tomba à ses pieds. Pourquoi, se demanda-t-il, les objets vont toujours dans la même direction, de haut en bas? C'est alors qu'il s'exclama « Eureka !» Il venait de découvrir la théorie de la gravitation. Plus tard, au milieu du 19e siècle, Eureka devint aussi le cri d'exaltation des chercheurs d'or de Californie quand ils trouvaient une pépite. Cependant, les prospecteurs ont vite appris que tout ce qui brille n'est pas or. Dans les lits des rivières et dans les carrières se trouvaient aussi des bouts dorés de pyrite sans la moindre valeur. Les mineurs expérimentés étaient capables de distinguer le faux, or, du vrai au simple coup d'œil. Mais pas toujours. Alors ils mordaient la pépite et s'ils arrivaient à la croquer, c'était de l'or, car la pyrite est plus dure que l'émail de la dent. Les croyants sont souvent dans une situation analogue aux prospecteurs de minerais précieux car ils sont confrontés à divers enseignements qui sont présentés comme la vérité. Mais le sont-ils vraiment? Ils doivent donc apprendre à différencier la vraie doctrine de la fausse en la testant. La pyrite spirituelle n'est pas nouvelle. On la trouve partout depuis la nuit des temps. Elle a été inventée par Satan qui l'a présentée à nos premiers parents, Adam et Ève, et qui a réussi à la faire passer pour de l'or véritable. Par la suite, les faux prophètes se sont multipliés comme des punaises de lit. Aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament est rempli de mises en garde contre les faux prophètes et leurs enseignements pervers. Ces avertissements ont pour but d'exhorter le peuple de Dieu à se détourner des mensonges et de l'idolâtrie pour embrasser la vérité de Dieu. Les croyants doivent user de discernement s'ils ne veulent pas être semblables à des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Fin de citation. L'apôtre Paul dit aussi « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. » Pour attaquer la vérité, Satan jette le discrédit sur la parole de Dieu de trois manières différentes. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. L'Éternel avait dit à l'homme « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin » mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan est arrivé dans le jardin d'Éden et il a premièrement semé le doute sur la parole de Dieu en demandant « Dieu, a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » ?» Deuxièmement, il a carrément réfuté ce que Dieu avait dit, affirmant « Vous ne mourrez pas du tout !» Enfin, il a déformé la parole de Dieu, disant « Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Depuis, Satan et ses hordes démoniaques mènent une campagne incessante de désinformation, de déni et de suspicion contre la vérité de Dieu. L'apôtre Paul écrit « Si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. » Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Toute idéologie, philosophie, opinion ou religion autre que la vérité des Écritures fait partie de l'agenda de Satan. Pour cette raison, il est crucial que les croyants sachent qui sont engagés dans une lutte âpre contre un adversaire impitoyable et insaisissable. Paul écrit « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Une façon de combattre les forces démoniaques est de mettre en lumière leurs mensonges, c'est-à-dire toutes les formes de tromperies qui abondent dans tous les domaines de la vie, morale, politique, spirituelle, sociale, familiale, économique, éducative, scientifique, les loisirs et distractions, et je suis sûr que j'en oublie. Les fausses valeurs et les croyances en trompe-l'œil sont aussi nombreuses que les feuilles mortes qui jonchent les chemins forestiers en automne. Il faut donc tout examiner et scruter avec l'esprit de vérité en le passant au crible de la parole de Dieu. L'apôtre Jean sait que ses lecteurs sont la cible des attaques de faux prophètes. Pour les protéger, il leur recommande de mettre à l'épreuve ceux qui disent enseigner la vérité. Je commence à lire le chapitre 4 de la première épître de Jean. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. » Verset 1. Jean a déjà appelé ses lecteurs « mes enfants et mes frères ». Il s'adresse maintenant à eux comme ses bien-aimés. Bien qu'il soit obligé de les corriger, il les aime tendrement et tient à le leur dire. Après avoir décrit l'action du Saint-Esprit chez les vrais croyants, Jean parle maintenant de l'œuvre des mauvais esprits chez les prophètes de mensonges, ainsi que de leurs faux enseignements. La forme impérative du verbe « se fier à » avec la particule négative, peut aussi être traduite par « cessez de vous fier à », interdisant alors une action en cours. Ceux qui accepteraient aveuglément ce que racontent les faux prophètes doivent mettre le « holà » immédiatement et comparer ce qu'ils entendent avec l'enseignement qu'ils ont reçu au commencement. Jean exhorte ses lecteurs disant « éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. » Le verbe pour éprouver est à l'impératif. Au premier siècle, ce mot faisait partie du vocabulaire du service et ses qualités de la métallurgie. Il signifiait tester un métal afin de vérifier sa pureté et sa résistance. Les croyants doivent constamment évaluer ce qu'ils voient et entendent à la lumière des Écritures. Puisque la parole de Dieu est l'étalon de mesure de la vérité, c'est la principale défense contre les fausses croyances. Jean a beaucoup insisté sur la nécessité pour les croyants de s'aimer entre eux, mais encore faut-il que cet amour ne soit pas aveugle et qu'ils gardent les yeux grands ouverts. L'apôtre Paul écrit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'exclame « Seigneur, Seigneur » qu'il faut lui faire automatiquement confiance et lui offrir le logis et le couvert, car il se peut qu'il soit plus dangereux qu'un serpent à sonnette à cause du poison qu'il distille. Étant donné que les mauvais esprits sont maîtres dans l'art de tromper, les croyants doivent veiller et examiner de près tout message qu'ils entendent et qui demande un changement de croyance ou de comportement de leur part. Tout esprit ne vient pas de Dieu et le croyant ne doit pas se fier les yeux fermés à ceux qui prétendent parler de sa part. Il faut bien faire la distinction entre le Saint-Esprit et l'esprit de mensonge. Pour ce qui est des non-croyants, ils sont hors course et faciles à berner parce que, comme l'apôtre Paul l'écrit, ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Comme je le dis quelquefois, les incrédules sont très crédules et prêts à croire n'importe qui et n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune base sur laquelle s'appuyer pour évaluer tous les sons de cloche qu'ils peuvent entendre. Ils sont donc très vulnérables à toutes les formes de mensonges dans n'importe quel domaine de la vie. Par contre, les croyants qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qui croient en la vérité des Écritures, ne devrait pas se laisser embrigader par des imposteurs, qu'ils soient spirituels ou autres. Comme je l'ai dit, Satan élabore des mensonges qui vont à l'encontre de l'enseignement des Écritures, mais comme il est de nature sournoise, il travestit la vérité en y introduisant un peu d'erreur, pas trop, mais juste assez pour tromper les naïfs. Cette stratégie est généralement beaucoup plus efficace et destructive qu'une contradiction directe de la parole de Dieu. C'est de ce subterfuge que l'apôtre Paul parle quand il écrit « Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière ? Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. » Satan est un adepte du stratagème du cheval de Troie. Il introduit des faux prophètes dans les assemblées chrétiennes et une fois à l'intérieur, ces derniers neutralisent les croyants faibles par leurs mensonges en créant ce que Pierre appelle des sectes destructrices. Ces sectes divisent l'Église, l'affaiblissent et arrivent même à la faire disparaître. C'est ce qui est arrivé aux églises d'Afrique du Nord, notamment en Égypte, et d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Le gnosticisme, qui prit un grand essor au second siècle, fit de gros dégâts, mais les persécutions contre les chrétiens avaient un effet purificateur. Voyant que sa stratégie de verser le sang des chrétiens affermissait et multipliait les églises, Satan changea son fusil d'épaule. Au IVe siècle, l'empereur Constantin proclama l'édit de Milan qui octroyait la liberté religieuse. Il se fit baptiser, ce qui à ses yeux signifiait qu'il était chrétien, et ordonna à ses légions de faire de même. Les païens ont vite compris qu'ils avaient intérêt à devenir chrétiens comme l'empereur en se faisant baptiser. Seulement, ils n'ont pas renoncé pour autant à leurs pratiques idolâtres. Les responsables des églises, voulant accommoder les sensibilités païennes, la doctrine chrétienne fut diluée dans une mare de paganisme. Un point pour Satan. Je continue le texte de 1 Jean. « À ceci reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. » Versets 2 et 3. Peu de gens disent du mal de Jésus. Même les musulmans le considèrent comme un grand prophète. En Occident, la plupart de nos contemporains considèrent qu'il était un homme remarquable, un génie religieux, et qu'il ne méritait pas de mourir sur une croix comme un vulgaire criminel. Tout ça, c'est bien gentil, mais si le Jésus qui est né à Bethléem et mort sur la croix n'est pas le Fils de Dieu, il fut un grand homme comme il y en a eu beaucoup. Et c'est tout. Mais les Écritures enseignent le contraire. De toute éternité, il était dans le plan de Dieu que son Fils viendrait en personne pour sauver l'humanité. L'apôtre Pierre écrit « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde. » Les prophètes annoncèrent sa venue. Ésaïe écrit « Pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. » Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. L'enfant est Jésus, né à Bethléem. Le Fils est la seconde personne de la Trinité et tous les titres mentionnés par Ésaïe seront portés par Jésus quand il règnera sur terre pendant 1000 ans en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans tous ses écrits, Jean est très rigoureux quand il présente la personne de Jésus. Dès les premières lignes de l'Évangile, qui porte son nom, il dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Le besoin qu'éprouve Jean d'affirmer que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, peut paraître bizarre parce que, à première vue, on dirait une lapalissade. Évidemment que Jésus est né dans le monde, autrement on ne parlerait pas de lui, mais là n'est pas ce que dit l'apôtre. En effet, et comme je l'ai dit dans l'introduction, quand Jean écrit cette épître, deux hérésies principales qui rejetaient l'incarnation de Dieu, fait homme, s'étaient déjà introduites dans les assemblées chrétiennes et faisaient des ravages. La première était prônée par un certain Sérinthe, contemporain de l'apôtre Jean. Il enseignait que Jésus n'était qu'un homme et que le Christ divin descendit sur lui à son baptême et le quitta avant la crucifixion. La seconde hérésie était répandue par ceux qu'on appelait docétistes. Ils disaient que le corps de Jésus n'était pas réel et physique, mais en avait seulement l'apparence. Fort de cet arrière-plan, on comprend la pertinence de la déclaration solennelle de Jean. Ceux qui ne croient pas que Jésus est né d'une vierge, qu'il est Dieu fait homme et qui rejette sa divinité, ont en eux l'esprit de l'Antichrist. Il fallait que l'homme Jésus, qui est né de Marie, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, puis monté aux cieux, soit le Christ, la seconde personne de la Trinité. Le Jésus qui sur terre ressemblait à n'importe quel autre rabbin juif est tellement Dieu qu'au ciel notre relation avec Dieu sera avec lui seul. Nous serons sans doute conscients du Père et du Saint-Esprit, un peu comme nous le sommes aujourd'hui, mais nous ne verrons que Jésus. Ce qui me conduit à penser ainsi est son enseignement sur son étroite union avec le Père. Je lis quelques passages. « Moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. »« Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ?» Fin de citation. Je ne suis pas sûr que tous les chemins mènent à Rome. Par contre, je sais que toutes les croyances ne conduisent pas au royaume des cieux. Toutes les religions, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes, n'ont pas le même Dieu. C'est l'Éternel qui est le Créateur et le seul vrai Dieu. Cependant, aucun rite religieux ne permet de s'approcher de lui. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». « Nul ne vient au Père que par moi. » Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qu'il rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Le Jésus-Christ dont il est question dans le Nouveau Testament est le seul intermédiaire entre le Dieu trois fois saint, grand et terrible, et la créature pécheresse et coupable que je suis qui est sous la colère de Dieu. L'apôtre Paul a dit « Il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. c'est en lui seul que se trouve le salut. Toute proclamation, qu'elle soit d'ordre religieux ou philosophique, qui ne déclare pas ouvertement que Jésus est le Christ, le Messie, et la seconde personne de la Trinité, fait homme, n'est pas de Dieu, mais c'est l'esprit de l'Antichrist. Nous savons que des faux Christ et un homme qui sera l'Antichrist doivent venir, mais son esprit a toujours été présent dans le monde et il se manifeste par le mensonge qui se cache derrière une religion, une hérésie aberrante, une théorie philosophique et fumeuse ou encore une sommité scientifique en blouse blanche. Entre les adorateurs de l'oignon et le bouddhisme tibétain, il y a de la marge. Mais il en faut pour tous les goûts, car Satan ne voudrait surtout pas que quelqu'un ne trouve pas ce qui lui convient. Pourtant, aussi différentes que soient toutes les croyances, elles ont en commun d'être fausses et nient et rejettent la vraie nature de Jésus-Christ. Par contre, ceux qui savent qui est véritablement Jésus et qui ont compris la signification de son sacrifice possèdent l'esprit de la vérité.